Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Luc Arbogast, artiste alsacien, musicien de bouzouki irlandais, qu'on a beaucoup pu voir ici à Strasbourg, devant la cathédrale, qui était sa scène ici à Strasbourg, qu'on a pu voir également dans l'émission The Voice. Ça remonte un petit peu maintenant, ce qui lui a donné un vrai coup d'éclairage aujourd'hui et qui lui vaut sa notoriété. Alors, une grosse actualité, il était il y a quelques jours à Strasbourg pour le concert hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg, il y a 5 ans. Et une tournée qui a lieu également en ce moment. Il y a quelques dates ici en Alsace, on va y revenir. Et la sortie d'un album Via Antica, des chants de musique médiévale sacrée, comme il a l'habitude. Luc Arbogast, bonjour.
Bonjour.
Alors, ravi de vous recevoir, vraiment. Un artiste très emblématique. Alors, on a essayé de vous classer, de trouver quelle étiquette on pourrait vous mettre sur le dos. À part la musique médiévale, le reste, en fait, vous faites plaisir. Vous avez, vous, envie de récupérer là, ce prochain album ou dans la tournée, il va y avoir un chant yiddish qui a été repris avec des paroles à vous. Vous avez envie de faire des mélanges et justement, zéro étiquette.
C'est toujours difficile d'accepter d'être classifié. Quand j'étais à Paris dans l'émission The Voice, on disait le troubadour des temps modernes. Auprès de mes amis musiciens de musique médiévale, je suis un petit peu l'élément novateur de cette engeance, je dirais. L'idée, je dirais que si je devais définir mon trajet sur Terre par le biais de la musique, ça serait finalement, maintenant que j'ai pris un peu d'âge, quelque chose comme un des gardiens du patrimoine parmi d'autres. Par le biais de la musique, j'ai la chance d'avoir un public fidèle et puis d'avoir des envies, des rêves à réaliser. Et je trouve que le patrimoine universel est si vaste que, de toute façon, j'ai toujours du grain à mettre sur la pierre de mon moulin.
Comment est-ce que vous avez découvert cette voix si particulière hein, qui vous caractérise à quel âge? Parce que souvent, bon, les jeunes garçons changent de voix. Vous étiez peut-être jeune adulte plutôt. Quand, à quel moment vous vous êtes dit « Waouh, j'ai un outil, puis j'ai surtout envie de m'en servir et de faire profiter tout le monde ?»
Oui, c'est très anecdotique. Quand j'étais enfant, je chantais dans une chorale qui s'appelait Les Petits Chanteurs à la Croix d'Onis à La Rochelle, à la cathédrale de La Rochelle. Et puis voilà, j'étais soprane. Voilà, je chantais en voix de soprane, mais le temps est passé, j'ai déménagé, j'ai eu une vie de jeune adolescent, de jeune adulte. Et à 21 ans, en soirée, voilà, il y avait une mandoline qui était accrochée chez une amie sur un mur, et puis j'ai décroché cette mandoline. Je l'ai accordée un peu à la va-vite, et puis. J'ai improvisé quelque chose et c'était avec cette voix particulière qui était encore un peu fraîche hein, à l'époque. Hein,
voilà, oui. Voilà.
Et ça a touché les personnes qui étaient à côté de moi. Ça les a touchées d'un point de vue émotionnel. Et le lendemain, je suis allé chanter sur la place de la cathédrale. J'ai emprunté la mandoline à mon ami. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer un truc.
Donc vous étiez musicien?
J'étais guitariste. Oui. Voilà, j'avais déjà joué dans des groupes de rock, ce genre de choses. Quoi. Mais c'était pas du tout... orienté, c'était pas canalisé, je savais pas du tout quelle était ma mission sur Terre à ce moment-là. Pour moi, je m'amusais comme tous les ados s'amusent, quoi. Et quand je suis allé sur la place de la cathédrale, j'ai vraiment eu à la fois une sensation d'éveil absolu et de prise de risque. Et j'ai trouvé que c'est ce jour-là que tout a basculé. Alors, je peux pas donner la date exacte, je crois que c'était en juillet 96. Le jour, je ne me rappelle pas, mais... Et le public s'est tout de suite arrêté à écouter et c'est ce jour-là que ça a commencé. Quoi.
Oui, parce que je disais une voix anecdotique, mais pas uniquement une voix, un lien presque avec quelque chose de très spirituel. Vous avez, vous, envie d'emmener les gens, votre public, sur un nuage, de partir avec vous en méditation peut-être. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'on ne va pas l'amener au fait religieux là aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas l'idée, mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Il y a une notion de foi dans la vie à chaque fois que quelqu'un met son âme au service de son travail, à mon sens. Et si je suis, moi, témoin de la foi et de l'universalité, peu importe sa direction, ou peu importe si la source de sa foi, je dirais qu'en tous les cas, l'être humain a dans son programme l'idée de la contemplation, l'idée du partage, l'idée de choses qui peuvent le dépasser, qui sont la spiritualité. Et en fait, ma musique, elle se veut universelle dans ce sens, précisément dans le sens que elle est apolitique, elle n'a pas d'orientation religieuse. ce qui peut me permettre aussi à moi en tant que musicien d'intervenir avec des sur des mélodies différentes. Voilà, on citait tout à l'heure voilà ce chant F.H. Oshanim que j'avais appris donc du groupe Ofarim quand j'étais enfant, mais je peux très bien m'intéresser aux musiques médiévales germaniques du 13e ou aux musiques grecques de la fin de l'Antiquité. L'essentiel, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors parfois même, on va dire, on comprend pas ce que vous chantez, mais on ressent quelque chose. Et là, on est vraiment dans le voilà, dans le secret de la musique. Si elle est bien faite, souvent, je trouve qu'il est plus utile de s'adresser directement à l'âme plutôt que de s'adresser aux oreilles, au mental. La musique, elle doit pas passer par le cerveau, elle passe par le cœur.
Parler de secret, ouais, secret sacré, c'est pas loin. Je parlais en introduction de cette émission de The Voice, c'était un formidable tremplin pour vous. Quand vous avez fait vos auditions, vous y êtes allé, vous, au perché, avec cette voix et avec des chants venus d'un autre temps.
C'est très drôle de parler de cette émission The Voice parce qu'en fait, la place de la cathédrale a été mon fief, comme un petit peu le Palais des Papes à Avignon ou la place du gouvernement à Lyon. Enfin, qu'importe, j'ai joué à peu près partout en France. Dès qu'il y a une université ou une cathédrale ou une synagogue ou en tout cas des monuments historiques, en tout cas, j'étais présent. Et en fait, on m'a sollicité souvent pour des émissions comme ça et à chaque fois, je refusais pour des questions d'esthétique. Et finalement, approchant la quarantaine, je me suis dit, bon, pourquoi pas laisser une trace, je dirais, plus tangible de mon passage sur Terre en faisant connaître mon travail au grand public. Le plus troublant, c'est que le chant que j'ai interprété dans les auditions à l'aveugle, Canzone Sefaradi, donc la chanson Sefarad, c'est un morceau du 15e siècle, a été ultra plébiscité. Je le chante encore aujourd'hui. D'ailleurs, je chante sur tous les concerts de la tournée, là. Et j'étais très content. J'étais très content de cet accueil dans l'émission The Voice. Moi, j'aime bien dire que ça a mis un turbo sur un moteur qui marchait déjà bien.
jolie expression. Alors, on le disait, une actualité riche. Alors, vous êtes revenu ici dans la région. On va parler dans quelques minutes de votre tournée en Alsace. Avant ça, c'était de revenir. Vous êtes revenu à Strasbourg pour ce concert hommage aux victimes de l'attentat de 2018, l'attentat du marché de Noël à Strasbourg. Vous êtes venu présenter une chanson que vous avez chantée sur scène. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait de cette chanson, et puis après vous nous en parlez. Pourquoi là, à ce moment-là, et quelle signification ?
Porter en mon sein l'édifice le plus haut, pour apporter aux hommes les divines lumières. J'ai construit à dessein dans de lointains échos, une immense muraille de tours de meurtrières. J'ai été bâti là, sur des roches sauvages, à la frontière des temps, longtemps ville guerrière. Des hommes venus de Rome créèrent mon paysage, et façonnèrent mes murs, et firent sortir de terre. Aujourd'hui je me dresse pour mieux m'offrir à vous, j'offre mes rues ouvertes comme un grimoire ancien. J'ai cru mille fois tomber, mais suis toujours debout. Résiste au temps qui passe, à quelques lieues du Rhin. Je vous dis les histoires qui ont fait qui je suis, de batailles en victoire, de mondes en déraison. À ceux qui veulent l'entendre, je leur dirai aussi que ce n'est pas par hasard qu'on a changé mon nom. On me nomme Strasbourg et depuis 3000 ans, de naissance romaine, 1000 ans avant votre ère, je présente mes tours soumises aux quatre vents. Et mes clochers dressés entourés de rivières. L'on me nomme Strasbourg d'Orient en Occident, glorieuse aujourd'hui, mais issue de poussière. L'on me nomme Strasbourg, citadelle des temps, dressée depuis longtemps, cité imaginaire. C'est Argentoratum qui fut d'abord mon nom, et au nom de l'Empire que je fus baptisé. Sainte romaine germanique, pendant mille saisons, j'ai vu les hommes bâtir par leur foi baptisée. Une immense cathédrale qui se dresse aujourd'hui à l'endroit où jadis je naquis à l'histoire. Gothique et flamboyante, telle une hymne à la vie, et sur laquelle se perdent les cœurs et les regards. Il n'est pas de grandeur qui égale la mienne, ni d'autres créations qui s'élèvent aussi haut. Aussi près des étoiles que les anges eux-mêmes ont versé de leur sang au carmin des vitraux. Je suis la glorifiée, l'âme de l'univers.
Argentoratum, du nom de Strasbourg, je suis. Vous êtes Strasbourg, nous sommes tous Strasbourg. Qu'est-ce que cette chanson, alors évidemment on voit très vite le lien avec cet attentat et l'hommage aux victimes de cet attentat de Strasbourg. Vous l'avez créé pour cet événement ?
J'ai créé, non, je ne l'ai pas spécialement créé suite aux attentats. En fait, en réalité, j'écris aujourd'hui des hymnes pour les villes de France. J'ai écrit des hymnes pour la ville de Dourdan, pour Carcassonne, pour La Rochelle, le Mont-Saint-Michel. J'écris des hymnes, j'ai mis Strasbourg, évidemment, dans cette aventure-là. Mais pour moi, quand j'ai écrit ce texte, par contre, il y avait vraiment cette notion de volonté de parler de la résilience. Strasbourg fait partie de ces villes résilientes Strasbourg, c'est une ville qui a excessivement vécu, hein, des basculements politiques, des basculements culturels. Et je pense que les attentats d'il y a 5 ans nous permettent de prendre pour exemple justement la force de résistance, la résilience, le fait de savoir rebâtir malgré les douleurs, en fait, de savoir se construire quand même. C'est vraiment ça que je veux exprimer dans cette chanson.
On va parler de cette tournée qui est en Alsace en ce moment. Beaucoup de lieux saints, hein, vous le disiez, à l'église protestante, par exemple, du Neuhof Stockfeld. Ça, c'est le 14 décembre, le 15, on vous retrouve à Münster, le 16 à Sarrebourg, le 17 à Wingen-sur-Moder. Vous faites la tournée pour retrouver ce public alsacien. Ça va être quoi le répertoire ? Qu'est-ce que vous allez leur offrir ? Alors, on en parlait, voilà, on retrouve sur scène cette fameuse berceuse yiddish, mais pas uniquement.
J'ai voulu créer, en fait, une sorte de veillée. Voilà, Songe d'une nuit d'hiver, c'est le nom de la tournée, nous amène, en fait, dans la veillée familiale. Donc, on est à la frontière, peut-être à la fin des années 70, avant les grandes opérations télévisuelles où les gens savaient se réunir autour d'une table, se réunir autour d'une table avec les anciens, avec les jeunes, faire cohabiter toutes ces générations. Pour moi, c'est quelque chose d'excessivement important. Le conte, le feu de cheminée, l'histoire, la tradition orale, tout ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup dans le sens où surtout je vois qu'aujourd'hui ça n'est presque plus appliqué en fait. Et je pense que la période de la nativité, elle est utile à ça en fait. C'est le moment où effectivement dans les frimas de l'hiver, on arrive à retrouver cette cohésion familiale. Cette ouverture aussi sur les écrits, les cérémonies du deuxième avant, du premier avant, la couronne de l'Avent sur la table, ce genre de choses, c'est important, je trouve, de transmettre ces traditions qui se perdent actuellement, quand même.
Des traditions commerciales, on en a quelques-unes à Strasbourg.
Oui, oui.
On cherche un petit peu d'âme dans tout ça, c'est ce que vous voulez ajouter, vous, ce petit supplément d'âme ?
Voilà, oui, il y a ça, il y a un côté très paysan, finalement, dans cette démarche que j'ai là. Je fais toujours référence un petit peu aux trois messes basses d'Alphonse Daudet, là où voilà, le fait de venir à la messe de minuit, ça fait partie de ces choses sacrées qui gardent une famille solide. Et alors le répertoire, en fait, c'est des chants de Noël, évidemment, des Noëls médiévaux pour la plupart. Il y a effectivement donc des mélodies yiddish, hein, qu'on peut retrouver que j'ai à fleur de cœur en permanence. Et puis la découverte d'instruments traditionnels anciens aussi, d'autres générations, d'autres pays, notamment le bassin méditerranéen avec des instruments qui peuvent venir juste depuis l'Inde, hein, ou même des instruments vietnamiens dont on joue sur scène, là, dans des morceaux très méditatifs, dont le titre signifie « En présence du divin », donc « Darshan », c'est très très fort. Et puis il y a une partie aussi d'histoires contées, quoi, des histoires sur le monde de féerie, la forêt.
Vous nous embarquez alors là pour ces quelques jours avant les fêtes de Noël, donc plus proche de nous à Strasbourg, je le disais, à l'église protestante du Neuhof Stockfeld. Il y en a évidemment aussi sur tout le territoire barinois jusqu'à Münster, donc c'est le 15. Encore un projet, bon, l'émission arrive à sa fin malheureusement, mais vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses dont on pourrait parler. C'est un album, Via Antica, qui va sortir là dans peu de temps.
Oui, Via Antica, c'est une aventure qui a commencé au début du confinement, au début de la pandémie de la Covid. On était totalement inactifs, en fait, nous les artistes, et en fait, on s'était posé la question avec ma société de production de savoir comment on pouvait rester actif sur quelque chose. On ne voulait pas être muselé, s'ennuyer. Via Antica, c'est, l'idée était de s'intéresser à des lieux historiques, de raconter l'histoire du lieu historique, de faire découvrir en fait le site, un peu comme le fait Stéphane Bern ou comme le fait Laurent Deutsch. Voilà, c'est vraiment cette aventure-là. Et ensuite, de proposer un concert dans l'endroit. Alors, on a fait le monastère de Ségriès, on a fait l'abbaye de Saint-Antoine-l'Abbaye, il y en a d'autres comme ça. Et tout ça, c'est en streaming, en fait, sur les plateformes de Internet, quoi. Et finalement, ce Via Antica, il est resté comme ça dans notre programme. On a un dossier Via Antica. Puis on a commencé à écrire des hymnes pour Dourdan, pour Paris. Et finalement, on les a chantés à Rouen et à Dinan. Et puis, on s'est dit, mais en fait, gardons cette aventure comme un fer de lance. Et aujourd'hui, donc, on sort cet album Via Antica Live. En fait, donc, c'est un album de live qu'on a enregistré les meilleurs moments, voilà, de tous les concerts qu'on a joués. Et ça, l'album sort là, ce mois-ci encore. Et puis, on l'a sorti là en décembre parce qu'en mars, en fait, on part au Canada faire une tournée à Caraquet dans le Nouveau-Brunswick sur une tournée de chant plutôt tournée vers l'océan.
Plein de projets, en fait, ça n'arrête jamais. Vous êtes un groupe, hein, vous êtes venu avec votre percussionniste, hein, qui n'est pas avec nous là en studio. Votre fils aussi fait partie de l'aventure, hein.
Mon fils s'occupe de la régie son sur cette, sur cette tournée. Il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que en principe, je fais des tournées qui sont assez grandiloquentes, avec des camions devant, des grosses sonos, et je trouve ça génial, hein, pas de problème. Mais là, en fait, il y a un caractère caritatif dans cette tournée, et donc le but, c'était aussi de réduire au maximum la voilure d'un point de vue technique. D'abord, pour avoir une économie, je dirais, de fonds, pour pouvoir vraiment faire beaucoup de concerts. Et la deuxième raison, c'est aussi de retrouver l'intimité, justement, que ce soit pas... mon but, c'est de retrouver l'idée de la veillée, de l'intimité. Donc, en petit comité, là, c'est très bien. On a des jauges de public, là, qui sont entre 150 et 300 places. Voilà, on a décidé de pas faire des grandes salles, voilà, à plus de 1000 personnes, parce que c'est... L'esprit de Noël, il est aussi justement dans ce regroupement comme ça.
Et dans ce partage, on va dire, de connexion et de vibration grâce à vous. Luc Arbogast, merci infiniment d'être passé nous voir ici dans les studios de Radio Judaïka. C'était une première. Bien sûr, notre porte vous est toujours ouverte pour parler de votre travail et de vos projets futurs à venir qu'on espère très nombreux.
Ben merci, puis merci de m'avoir reçu justement en pleine période de Hanouka, là, ça me fait vraiment plaisir, c'est tout à fait ce qui est bon pour nous tous. Merci beaucoup.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.